Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la situation actuelle et que vous puissiez passer un sabbat édifiant. En prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, l'homme s'est coupé de Dieu. L'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie et Dieu a mis des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. À partir de ce moment-là, l'homme a pris un autre chemin. Il a pris sa propre voie, il a choisi ses systèmes de gouvernement avec des décisions politiques diverses. Dieu a laissé l'homme choisir sa voie et prendre ses propres décision. Mais pourquoi nous n'entrons pas dans la politique? Pourquoi nous n'entrons pas dans la politique? C'est le sujet de ce sermon. Premièrement, c'est un sujet avec lequel il faut prendre du recul. Et deuxièmement, il faut regarder ce sujet avec la perspective des enseignements bibliques. Pour commencer, il est important de se rappeler que Satan est le Dieu de ce monde. Satan influence nos sociétés. Dès le début, c'est ce que nous venons de voir dans le jardin d'Éden, l'homme a succombé à l'influence de Satan. Et bien entendu, Satan ne s'est pas arrêté là. Il y a un verset intéressant dans 1 Jean où l'apôtre Jean parle de Caïn et qui était, je cite, « doux malin ». Son influence néfaste a continué. Et Satan a continué à influencer l'humanité, à influencer nos sociétés et suite à son influence, certaines décisions ont été prises. Satan, comme j'ai dit tout à l'heure, est le Dieu de ce monde. Il y a des idées véhiculées par Satan qui vont à l'encontre des lois de Dieu. Ce monde est influencé par le prince de la puissance de l'air, comme c'est marqué dans la Bible. Et l'homme détruit ce que Dieu a créé. Satan sème des attitudes, le prince de la puissance de l'air, et quand Satan sème et que ça prend racine, il y a des fruits que nous voyons abondamment autour de nous maintenant, la violence, la séduction, la perversion, le mensonge et la rébellion. Nous pouvons respecter certaines positions plus que d'autres, mais la question qui se pose, est-ce que c'est la norme de Dieu? C'est pour ça que c'est important de regarder le sujet d'un perspective des enseignements bibliques. Il y a bien entendu tout un éventail des positions qui sont prises ou qui sont pratiquées. Le sujet peut être complexe, mais une chose est certaine, c'est que des gens changent. Les opinions changent et il n'est pas rare que les prises de position changent. Quelqu'un peut être apprécié sous certains aspects, mais les personnes qui l'apprécient à cause d'un certain nombre de choses ne sont peut-être pas d'accord avec d'autres idées en provenance de la même personne. Et un pays peut promulguer des politiques qui affectent d'autres nations, telles que les embargos, des restrictions, le commerce, favorablement ou défavorablement. Si on regarde le mot politique, son étymologie, vient du latin politikos, et même plus loin que ceci, le grec politikos, d'après le Robert. Et le Robert donne, comme sa première définition, ceci. Art et pratique du gouvernement des sociétés humaines. Art et pratique du gouvernement des sociétés humaines. Larousse, le dictionnaire Larousse dit que le terme politique renvoie par son étymologie à la grecque ancienne ou polis, qui va donc plus loin encore que politikos, où polis désigne la cité organisée. Et la définition que la Larousse donne, c'est ce qui relève de l'exercice du pouvoir dans l'État. Nous vivons actuellement dans un monde séparé de Dieu, qui ne comprend pas les désirs et les intentions de Dieu, parce que l'homme a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'est pas surprenant que nous trouvons dans la société des positions qui ne reflètent pas les normes de Dieu. Et dans ce contexte, c'est intéressant de constater dans Matthieu chapitre 19, je m'y rapporte pas, Matthieu chapitre 19, quand le Christ était confronté par les pharisiens, comme ils avaient l'habitude de faire, où il a été question de repudier sa femme, et le Christ dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc le Christ donne la norme de Dieu, la norme que Dieu a établie dès le commencement. Pour continuer avec l'histoire dans le jardin d'Éden, une fois qu'Adam et Ève ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a précisé que l'homme est devenu, je cite, « l'homme est devenu comme nous pour la connaissance du bien et du mal. L'homme a décidé pour lui-même et l'humanité par la suite, avec une indépendance morale dont l'homme est si friand. » Mais regardons Jérémie chapitre 17, verset 5, ce que Dieu dit, Jérémie chapitre 17 et le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. En plus, nous sommes familiers avec le verset 9 du même chapitre, et dans Jérémie chapitre 10, le verset 23, j'y m'y rapporte pas, Jérémie chapitre 10 et le verset 23, c'est Jérémie qui parle et qui dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Jérémie connaissait la nature humaine, il connaissait l'homme, et l'homme a besoin d'aide, l'aide de Dieu pour son propre bien. La Bible précise qu'on connaît un arbre d'après son fruit, ses fruits. Et ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits. De nos jours, il y a beaucoup de mauvais fruits, et à travers l'histoire de l'homme, il y a toujours eu de mauvais fruits. Mais pour revenir au sujet de ce sermon, un membre de l'Église a des besoins, des désirs, des priorités et même peut-être des perspectives politiques qui peuvent être différents des besoins, des désirs, des priorités ou des perspectives politiques d'un autre membre. Et ceci dans le même pays. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il y aura encore de plus grandes différences par rapport à certains membres dans d'autres pays. Et si ces différences, ces différents points de vue sont emmenés à l'église, ça crée la division. À l'église de Corinthe, parce que les gens faisaient valoir le côté humain au lieu de faire valoir le côté spirituel. Pourtant, Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 3, je m'y rapporte pas, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Rapportons-nous à 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 4. Nous lisons ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et notre but, en tant que chrétien, c'est de plaire à celui qui nous a enrôlé. C'est notre priorité. Il faut que nous soyons conscients que l'homme ne peut pas résoudre tous ses problèmes. L'homme sans Dieu. C'est pour ça aussi que nous prions pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Quand l'homme a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons déjà vu qu'il y a eu des conséquences. Et avant même qu'Adam et Ève ont pris de cet arbre, Dieu leur avait averti dans Genèse chapitre 2, verset 17. Des conséquences, d'autres conséquences de ce que nous avons vu tout à l'heure. Genèse chapitre 2, verset 17. Je n'y m'y rapporte pas. Genèse chapitre 2, verset 17, où nous lisons, « Mais tu n'en mangeras, c'est Dieu qui parle, « mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans le texte en hébreu, tu mourras se trouve deux fois. C'est répété. Nous voyons que c'est vraiment emphatique, c'est souligner le fait que l'homme allait mourir s'il prenait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du reste, la version Shoraki traduit ce verset comme ceci. Oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Ostervald dit, car au jour tu en mangeras, certainement tu mourras. Donc, c'est souligné. La version Darby, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'homme, dans son ensemble, a pris le chemin qui mène à la mort. Le monde a des solutions humaines. Mais l'homme a besoin de Dieu pour résoudre ses problèmes complètement, de pratiquer la voie de Dieu. Il y a deux voies, la voie de Dieu, la voie de donner qui mène à la vie éternelle et la voie de prendre qui mène à la mort. Nous ne parlons pas ici des intentions. Les intentions peuvent être bonnes, mais l'homme, dans son ensemble, est séduit. Et séduit, il ne voit pas la nécessité de pratiquer la voie de Dieu, d'accepter les normes de Dieu. Notre point de départ pour répondre à la question de pourquoi nous n'entrons pas dans la politique, notre point de départ se trouve dans Jean chapitre 18, et le verset 36. Le contexte est intéressant parce que Pilate interrogeait le Christ juste avant sa crucifixion et lui a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?» Le Christ n'a pas nié qu'il était roi. Il a dit un peu plus tard « Je suis roi. » Mais regardons le verset 36. Jean, chapitre 18, et le verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » Le Christ va établir son royaume quand il revient sur cette terre. Le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais le Christ ne s'est pas dressé contre Rome. Son royaume n'était pas de ce monde. Nous voyons la position du Christ mentionnée dans Matthieu chapitre 22 quand il était tenté par les pharisiens et par les hérodiens et qu'il a répondu « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Peu de temps avant, du reste, il a bien montré qu'il voulait pas que ses serviteurs se battent et que son royaume n'était pas de ce monde. Dans le verset 10 toujours, Jean chapitre 18, verset 10, Simon-Pierre qui a vu une épée quand ils sont venus arrêter le Christ, Simon-Pierre qui a vu une épée la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Pour le reste de ce sermon, et en réponse à la question de pourquoi nous n'entrons pas dans la politique, j'ai voulu donner un certain nombre de fondements bibliques. Fondement biblique numéro 1. Dieu choisit qui il veut. Dieu choisit qui il veut. Nous sommes peut-être familiers avec le grand arbre que Nebuchadnezzar a vu dans un songe. Daniel a interprété ce songe. Donc, Daniel chapitre 4 et le verset 22. Il interprète ce songe auprès de Nebuchadnezzar. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. Et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Je saute jusqu'au verset 25, qui était une prophétie de ce qui allait arriver à Nebuchadnezzar. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi. Ensuite, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Nous trouvons cette phrase mentionnée dans le verset 17. Je lis la fin du verset 17. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. Et ensuite, quelque chose que nous ne trouvons pas dans le verset 25, est qu'il y élève le plus vil des hommes. Dieu choisit qui il veut, même si c'est le plus vil des hommes, pour que les prophéties se réalisent, pour que les prophéties s'accomplissent. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons mieux comprendre pourquoi nous n'entrons pas dans la politique? Parce que c'est Dieu qui le donne à qui il lui plaît. Verset 34 du même chapitre. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Dans le chapitre suivant, il est question du roi Belshazzar, qui a donné un grand festin, et certainement nous sommes familiers avec le fait qu'il y avait l'écriture sur le muraille. Daniel était appelé pour interpréter cette écriture, et Daniel lui-même reprend ce même thème. Daniel chapitre 5, donc, et le verset 20. Daniel chapitre 5, donc, verset 20. Ici, Daniel parle de Nebuchadnezzar, verset 20. « Mais lorsque son cœur se leva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Donc, la prophétie s'est bel et bien réalisée, on lui donna au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, ensuite, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur la reine des hommes et qui le donne à qui il lui plaît. Ce thème revient. C'est Dieu qui décide. Dieu choisit qui il veut. En allant plus loin, dans le même chapitre, nous voyons de nouveau l'accomplissement de ce principe, l'accomplissement de ce fondement biblique. Chapitre 5, donc, est le verset 26, verset 26, et voilà l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Et Dieu a décidé que Babylone allait tomber et quelqu'un d'autre allait prendre le pouvoir. Ce qui prime, c'est le plan de Dieu. Ce que Dieu décide. Que les choses se déroulent comme il a prévu, comme il a permis. Il y a quelque chose d'intéressant que nous voyons dans le Nouveau Testament. Lorsque les apôtres étaient devant le Sanhédrin, donc après la crucifixion du Christ, après la Pentecôte, et Gamaliel, docteur de la loi, et je cite, estimé de tout le peuple, estimé de tout le peuple, a dit entre autres ceci. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et il ne faut pas, nous, courir le risque d'aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé, de ce que Dieu veut. Il y a bien entendu un autre facteur dont on peut parler, c'est le comportement des hommes. Parce que Dieu peut décider quelque chose, peut prophétiser quelque chose, et ensuite les gens se repentent et Dieu change d'avis à cause du repentir. C'était le cas de la ville de Ninive, qui contrariait Jonas, du reste. Ce que Dieu veut, ce que Dieu permet, prime toujours. Ce qui prévaut, ce qui prédomine, c'est toujours la volonté de Dieu. C'est intéressant de regarder l'expérience d'Israël dans ce contexte, parce que, à un moment donné dans leur histoire, le dirigeant, le juge, pour employer le mot biblique, était nommé directement par Dieu. Mais à un moment donné, il voulait le même système de gouvernement que les nations autour d'eux. Dieu l'a permis. Mais c'est là aussi que leurs problèmes ont commencé. Parce qu'ils avaient, par la suite, de bons rois, mais aussi de mauvais rois. Et nous voyons, même quand il y avait des mauvais rois, des rois méchants, qu'il y avait des gens qui étaient justes. David à l'époque de Saül, Élie à l'époque d'Achab, et puis aussi les sacrificateurs qui ont résisté à Ozias quand il a outrepassé ses responsabilités. Mais bien sûr, c'est aussi une leçon pour nous, parce que nous avons, nous, une responsabilité individuelle, quelle que soit la personne qui est au-dessus de nous, qui est en charge ou qui dirige notre pays. Une responsabilité individuelle de suivre pleinement la voie de Dieu. Donc le premier point, le premier fondement biblique, c'est que Dieu choisit qui il veut. Le deuxième fondement biblique que nous pouvons constater, c'est que nous vivons dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le Christ a souligné, juste avant sa mort, qu'il n'était pas du monde. Et que ses disciples, non plus, n'étaient pas du monde. Le Christ précise ceci dans Jean chapitre 17, à deux reprises, puis aussi dans Jean chapitre 15, il précise aussi que ses disciples n'étaient pas du monde. Et quand on parle du monde, il y a davantage d'explications qui sont données, d'autres précisions qui sont données dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 15, qui nous aide à comprendre ce que c'est de ne pas être du monde, tout en vivant dans le monde. 1 Jean chapitre 2 et le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. À partir du verset 16, donc, il donne des précisions à propos de ce qui est mauvais dans le monde. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce n'est pas de Dieu. Ce sont pas les valeurs de Dieu. Ce sont en opposition aux valeurs de Dieu et à la voix de Dieu. Et nous ne devons pas, bien sûr, nous impliquer dans les valeurs du monde, pas suivre les valeurs du monde. Donc, la deuxième chose que nous pouvons constater, le deuxième fondement biblique, c'est que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, et que nous devons rejeter, entre autres, les valeurs du monde qui sont mentionnées ici dans le verset 16. Pas s'impliquer dans les valeurs du monde. Troisième fondement biblique dans le contexte de ce sermon, notre citoyenneté. Notre citoyenneté qui est décrite dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, et pour situer un petit peu le contexte, nous allons, si vous voulez bien, commencer à lire à partir du verset 17. Verset 17, Éphésiens 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons, nous les chrétiens, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dieu nous a appelés, nous avons répondu à cet appel et nous avons accès à Dieu le Père. Verset 19. Ainsi donc, de ce fait, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. On se trouve, à partir de ce moment-là, dans une autre catégorie. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Concitoyens des saints. Philippiens, chapitre 3 et le verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, c'est Paul qui parle, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. Puisque nous sommes dans une catégorie à part, nous avons à nous comporter d'une certaine façon. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19, le fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des valeurs qui ne sont pas des valeurs de Dieu, qui ne sont pas non plus nos valeurs, puisque nous sommes concitoyens des saints. Ensuite, le verset 20, j'ai voulu vous lire dans la version synodale, mais nous sommes citoyens des cieux. C'est là notre première priorité en tant que chrétiens. Nous sommes citoyens des cieux et c'est de là que nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, le Christ va revenir sur cette terre. Nous sommes citoyens des cieux. Et notre allégeance, notre loyauté, notre fidélité, notre soumission, notre subordination, notre obéissance, nos priorités sont à Dieu. Et nous avons, en tant que citoyens des cieux, les valeurs de Dieu, la façon par laquelle nous nous conduisons dans la vie, ce sont les valeurs de Dieu. Et il convient de se regarder comme on dit en anglais, a paying guest, c'est-à-dire un invité payant du pays où il habite. C'est un invité, mais il est un invité payant du pays où il habite. Dans ce contexte, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, est très intéressant, le langage que Pierre utilise ici. 1 Pierre chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. » Le langage est intéressant. Déjà, il dit « Bien-aimés, Pierre aimait les concitoyens des saints. » Et nous voyons également le mot « étranger ». Il y a un ouvrage biblique en français qui donne ceci comme définition de ce mot. « Un étranger, celui qui vit dans un endroit sans droit de citoyenneté. Un étranger, celui qui vit dans un endroit sans droit de citoyenneté. » Dans Éphésiens chapitre 2, c'est traduit par l'expression « gens de dehors ». Il s'agit donc d'un résident étranger. Quelqu'un qui a la permission de vivre dans un pays étranger, soit d'une façon permanente, ou soit d'une façon temporaire. Bien entendu, nous avons la responsabilité d'être de bons citoyens dans le pays où nous vivons, de payer nos impôts, et comme c'est marqué dans Romains chapitre 13, je m'y rapporte pas, Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et puis ensuite, ce qui suit dans ce verset, et c'est intéressant parce que ça rejoint ce que nous avons déjà vu dans Daniel, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quelqu'un qui paie ses impôts, de craindre l'autorité, toujours Romains 13, et de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, comme c'est marqué dans 1 Timothée. Et puis, il y a un deuxième mot que Pierre utilise, c'est le mot « voyageur ». Nous sommes des pèlerins. Et ce mot, c'est le même mot que nous trouvons dans l'expression « voyageur sur la terre », que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins et il y a autre chose après la mort. Autre chose que cette vie. Bien entendu, le danger, c'est que nous nous attachons à ce que le monde offre et nous ne voyons pas le mal. Et il est facile de s'installer dans cette vie comme si c'est la seule vie que nous avons. 1 Pierre chapitre 1 verset 24, je m'y rapporte pas. 1 Pierre chapitre 1 24 dit ceci, « Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Jacques dit ceci, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil se levait avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Un chrétien ne devrait pas s'attacher aux choses matérielles, les apprécier, mais pas au point que ça passe avant Dieu et avant son désir d'obéir à Dieu. Le Christ a beaucoup insisté que ses disciples n'étaient pas du monde, comme lui, il n'était pas du monde. Donc le troisième fondement biblique, c'est notre citoyenneté. Nous sommes citoyens des cieux. C'est notre priorité. Le quatrième fondement biblique, c'est le fait que nous sommes des ambassadeurs du gouvernement de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 20. Je saute ici, au milieu d'un contexte. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Larousse donne cette définition du mot ambassadeur. Représentant ou représentante, permanent ou permanente, d'un État auprès d'un État étranger. Accrédité auprès du chef d'État et dirigeant la mission diplomatique. On parle également de représentants et représentantes personnels ou personnels du chef d'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays. Là, il s'agit donc d'un ambassadeur itinérant. Et le Robert, dictionnaire Robert, donne ceci comme définition, envoyé d'un État auprès d'un État étranger. Et encore la définition suivante, représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. C'est donc, il s'agit d'une position élevée de responsabilité, quelqu'un qui représente son pays. Mais ça exige une loyauté à toute épreuve. Paul disait de lui-même qu'il était un ambassadeur dans les chaînes. Il y a quelques années, le Quai d'Orsay a publié un guide de déontologie à l'intention de ses 16 000 diplomates. On a plusieurs rubriques. Il y a A comme alcool, C comme cadeau, S comme sphère privée et V comme valeur, parmi d'autres. Bien entendu, la diplomatie se fait aussi durant les cocktails et les dîners, et les sollicitations sont nombreuses et les dérives possibles. Or, l'ivresse n'est, je cite, pas acceptable, prends soin de préciser le guide. Les cadeaux ne sont amis, citation, que les cadeaux correspondant aux pratiques usuelles, et un peu plus loin, et d'une valeur modérée. Sphère privée, bien entendu, les diplomates, les ambassadeurs, sont tenus à des obligations de représentation, ils doivent veiller à leur tenue, et c'est un manquement de leur part, je cite, de fréquenter des milieux liés à des activités illégales. Les valeurs, l'exemplarité du comportement tant personnel que professionnel, l'ouverture aux autres et le respect des cultures locales, l'honnêteté intellectuelle et la loyauté, et même l'altruisme se trouvent mentionnés dans le guide. Et nous, sommes des ambassadeurs du gouvernement de Dieu et les normes de Dieu sont des absolus, sont purs, sont droits. C'est important de voir l'aspect temporaire de notre vie, notre pèlerinage, un ambassadeur est dans un pays étranger pendant un certain laps de temps, et pendant ce temps, il ne s'implique pas dans les affaires du pays. Nous représentons le gouvernement de Dieu de notre vivant, pas notre exemple. Il est intéressant dans ce contexte de voir ce que Pierre a écrit dans 1 Pierre 2:12, je m'y rapporte pas, où quelqu'un, un chrétien, s'aime, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et, dans une époque future, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous sommes donc des ambassadeurs avec des responsabilités qui nous incombent. Le cinquième fondement biblique, Christ ne vient pas pour réparer le système du monde. Il vient pour le remplacer. Il vient pour le remplacer, et c'est ce que Daniel nous démontre dans le statut qui est mentionné dans Daniel, qu'il allait y avoir, à ce moment-là, il allait y avoir des gouvernements successifs, des gouvernements des hommes successifs. Nous voyons ceci dans Daniel chapitre 2 et le verset 31. Daniel chapitre 2 et le verset 31. Daniel qui parle ici à Nebuchadnezzar. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Ensuite, il donne les détails, à partir du verset 32, les détails de cette statue. La tête de cette statue était d'or, pur. Et au fur et à mesure qu'on descendait la statue, il y avait d'autres composants. Il y allait y avoir une succession de royaumes à l'avenir, quand cette prophétie était donnée. Verset 37. Il y a l'explication. « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, verset 39, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, et ainsi de suite, il allait y avoir une succession de royaumes. Nous arrivons dans le verset 40 au quatrième royaume, et verset 43, tout en bas de la statue, nous lisons ceci, verset 43. Tu as vu le fer mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans le temps de ces rois, tout en bas de la statue, à la fin des gouvernements des hommes, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume, un autre royaume, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, donc le royaume des hommes, et lui-même subsistera éternellement. Ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Et comme nous venons de lire, c'est le Dieu des cieux qui va susciter un autre royaume, son royaume, le royaume de Dieu. Et il intervient, comme c'est marqué aussi dans le verset 45, sans le secours d'aucune main, d'une façon surnaturelle, et Dieu va établir son royaume. Il va remplacer les royaumes des hommes. Il va donner, imposer ses normes, Et à l'avenir, donc, les normes vont émaner et provenir de Dieu. Du reste, quand nous lisons Michée, nous voyons quelques détails à propos du retour du Christ. Dans Michée, chapitre 4, verset 1, c'est un passage avec lequel nous sommes familiers. Verset 1, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. C'est le gouvernement de Dieu. Verset 2, des nations s'y rendront foules et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Les gens vont aller vers Dieu, vont vouloir être enseignés avec le royaume de Dieu. Verset 3, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leur glaive, ils forgeront des royaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. La loi de Dieu existera, bien entendu, dans le royaume de Dieu, et il y aura des fruits magnifiques que nous ne voyons pas à l'heure actuelle. Bien entendu, les hommes ont parfois de bonnes intentions, parfois de très bonnes intentions, mais les intentions, c'est une chose. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 9, par exemple. Ésaïe 55, verset 9, là encore, je ne m'y rapporte pas. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 dit ceci, je m'y rapporte pas non plus. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, je lis ceci dans la version Darby. En nous parlant sagesse parmi les parfaits, sagesse toutefois, non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui sont bons. Nous venons de voir la prophétie dans Daniel qui nous démontre que le Christ va revenir pour remplacer les gouvernements successifs des hommes. Le Christ ne reviendra pas pour réparer le système que nous voyons actuellement. Ça, c'est le cinquième fondement biblique qui illustre pourquoi nous n'entrons pas dans la politique. Et un sixième fondement biblique, c'est le fait que nous sommes appelés à être, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être séparés du monde. 2 Corinthiens chapitre 6, et le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Toujours le fait d'éviter ce qui est mauvais. Et nous avons le verset 18, qui s'ensuit, je serai pour vous, à ce moment-là, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1, continue. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le fait de se purifier et se purifier dans tous les domaines, de ne pas épouser les philosophies, les coutumes, les voies du monde. Colossiens chapitre 2 parle de philosophie, Jérémie 10 parle de coutume, et la Bible parle également de la voie de Caïn. D'éviter donc ce qui n'est pas de Dieu, et de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre but. Donc, le sixième point, c'est le fait que nous sommes appelés à être séparés, différents, que nous sommes des ambassadeurs pour le Christ et de se comporter en tant qu'ambassadeur d'un autre royaume. Le septième fondement biblique, c'est le fait qu'il y a un gouvernement à venir. On ne s'applique pas dans la politique parce que nous avons nos yeux sur autre chose, notre vie est un pèlerinage, et il y a un gouvernement à venir, un gouvernement parfait, avec des enfants de Dieu perfectionnés. Revenons à Daniel, si vous voulez bien. Daniel chapitre 7. Il y a quatre animaux qui sont décrits et Daniel chapitre 7 est à mettre en parallèle avec ce que nous venons de voir dans Daniel chapitre 2. Alors, Daniel chapitre 7 et le verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui se lèveront de la terre successivement, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, le cinquième royaume, donc, que nous avons déjà vu dans Daniel chapitre 2. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ça vaut la peine d'attendre. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc il ne s'agit pas de réparer le système du monde, mais Dieu intervient pour les remplacer avec des gens qui ont été appelés, qui aura été formé, qui aura appris et qui aura pratiqué dans leur vie les lois de Dieu. Mais cela ne va pas être les hommes qui vont déterminer qui va gouverner. C'est Jésus-Christ qui va nommer des gens sur 10 villes, sur 5 villes. Bien entendu, nous anticipons l'avenir. Mais ça exige la patience et la foi, et de veiller sur notre vie spirituelle. Dieu va changer le monde au moment propice. Et en attendant, en tant qu'ambassadeur, nous ne nous impliquons pas dans les affaires du pays. Chaque chose en son temps. Hébreux chapitre 11. Et le verset 9. Hébreux chapitre 11 et le verset 9. Nous lisons ceci, c'est par la foi, en parlant d'Abraham, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a le solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait avec la foi la cité de Dieu. Il est normal d'aimer nos pays, même d'être attaché jusqu'à un certain point, pourvu que ceci ne prend pas le pas sur notre amour pour Dieu. Et il faut toujours se rappeler que Satan est à la tête du monde actuel. C'est intéressant parce que quand Satan a tenté le Christ, c'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, Satan lui montra au Christ, tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Le Christ n'a pas contredit Satan en disant que les royaumes du monde n'étaient pas à lui, et donc il ne pouvait pas les donner. Sur la dernière partie de la phrase de Satan, il a dit, tu adoreras le Seigneur, il a écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Mais il n'a pas repris Satan quand Satan disait qu'il lui donnerait les royaumes du monde, tous les royaumes du monde et leur gloire. Et nous qui vivons actuellement dans le monde, il nous faut surtout être attachés à ce qui va arriver, à l'installation du royaume de Dieu et à notre avenir.